Par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. Hein, s'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde.
Ouais.
Et
sauf
donc,
que là, c'est pas
non, mais
pareil.
Ce qui est important de discuter, c'est ça, c'est que c'est pas juste. Est-ce que ça gêne des gens? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables et parce que ce sont des boulots incontournables. On devrait aussi discuter de l'importance que ce qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects.
Évidemment.
Et c'est ces problèmes politiques-là qu'on ne discute pas.
Alors qu'en fait,
c'est ça que ça veut dire. La grève, elle a ce sens-là.
Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Pascal Pro serait-il intelligent? La question ne s'était jamais véritablement posée et d'ailleurs, on connaît la réponse. Le niveau de ses interventions sur tous les médias qu'il a fréquentés depuis 1998 et son passage à Téléfoot se passe de commentaires. Macho, populiste de droite, tenancier de café du commerce, droitier décomplexé, tout est dit, pas besoin d'en rajouter. Et pourtant, à la question d'une de ses éditorialiste qui se demandait si l'on devait toujours écouter la rue, la réponse de Pascal Pro fut claire. Oui, on doit écouter les gens, la réponse est oui, ça s'appelle la démocratie. Et de rajouter, mais au nom de qui vous décidez contre les gens? Le gouvernement n'a pas été élu, les législatives ont été perdues, il n'est pas mandaté pour ça, vous êtes une anti-démocrate. Oui, vous avez bien entendu, un journaliste défendant la rue en pleine période de manifestation contre le projet de réforme des retraites en France. Le vent serait-il en train de tourner en notre faveur? Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dirai jamais. Pascal Pro est l'un des symboles avec Hanouna de cette télévision poubelle, populiste, réactionnaire, à la botte des gouvernants, puisque ce sont eux qui, soi-disant, avec leurs milliards, ceux de Bolloré, Arnaud et Pinault, créent des emplois en France. Pascal Pro est-il intelligent? La réponse est oui, malheureusement, il a oublié de l'être depuis très longtemps. Et tant pis pour la démocratie, elle aurait bien besoin d'être entendue même sur CNews et les chaînes du groupe Bolloré. Au terminus des prétentieux, 1048e déontologie du journaliste. Ce soir, riz jaune lorsqu'on lui parle de neutralité. La carte de presse, symbole de la liberté, sous les 90.0 de Radio B, il y a longtemps que cette dernière n'est plus accréditée. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15, j'en doute un petit peu, pour une émission placée sous le signe du voyage à travers le monde d'un artiste qui connaît l'importance d'une planète aux multiples couleurs, aux multiples origines, du nord au sud, d'est en ouest, et 4 points s'ils sont cardinaux sont tout sauf hasard. À chaque fois, il représente un lieu, une odeur, un sentiment d'appartenance à un pays, un milieu, une fratrie, une envie de découvrir le monde des autres, mais aussi le sien. De Gibraltar à Fribourg, en passant par Maurice, Leipzig, Nanterre, Lyon ou l'Algérie, ce jeune ambassadeur de la chanson a décidé de vivre de sa passion. Les mots, qu'ils soient français, arabes, tamazighe, allemands ou anglais, respirent l'histoire, celle d'une vie qu'il met en musique depuis quelques années. Il est question d'amour, pas forcément divers, d'une famille qu'il aime magnifier, même s'il reste des traces indélébiles de quelques souffrances, et pas uniquement au niveau des pieds. Ce soir, il nous emmènera très haut, au sommet d'une montagne de 426 mètres, suffisamment haute. Elle s'appelle Djebel Tariq, en français Gibraltar. Et nous, nous envolons direction le studio de Radio B, où nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste lyonnais Nicolas Tariq Jacquard. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Alors Tariq s'est créé avec un K, alors que la montagne Djebel Tariq, Gibraltar en arabe, s'est créé avec un Q. Ton deuxième prénom a un rapport avec le détroit du même nom?
Eh bien oui, tout à fait. Donc Djebel Tariq, mon deuxième prénom c'est Tariq. Donc voilà, je m'appelle Nicolas Tariq, c'est mon nom de scène.
Ouais.
Mais dans la vie, ce sont mes deux premiers prénoms.
Enfin, et Tariq avec un K?
Tariq avec un Q.
Avec un Q. Ah,
ah non, pardon, mon
oui.
Nom,
donc, c'est
a été écrit par ma mère qui ne connaissaient pas l'orthographe actuelle, moderne, qui a été donnée aux Français quand on l'écrit avec notre alphabet. Donc, du coup, elle m'a donné le nom Tariq avec un K.
Avec un
mais
K.
Bien sûr, d'accord. C'est le même prénom quand vous lisez Tarek, Tariq avec K ou avec Q. Voilà, quelle que soit la graphie, au final, c'est en arabe le même nom.
Bien. Allez, tu seras avec nous jusqu'à 18h15 à peu près. Et tu nous présenteras ton premier album, Gibraltar, paru le 24 novembre 2022.
Exact, avec plaisir.
À tes côtés, je te présente mon co-animateur.
Bah que j'ai fait la connaissance
en antenne. Là, mais maintenant, tu vas faire connaissance.
T'as pas eu son portrait, là.
À l'antenne, maintenant.
Ah non, t'as pas eu son portrait.
Ouais. Alors, écoute bien, sois bien attentif.
Attention, alors lui aussi, il a un rapport bien particulier avec Gibraltar.
Oui, en quelque sorte. Oui.
Figure-toi que lui aussi revendique la paternité de ce petit bout de terrain coincé entre l'Afrique et l'Europe.
Hein? Incroyable.
Eh oui.
Oui, c'est vrai qu'il est revendiqué, oui, mais c'est sûr. Oui.
Donc, figure-toi que la nuit, hein, il en rêve. Alors, la nuit, il n'a pas sommeil. Ça remonte à ses jeunes années. Il a pris sa plus belle plume pour écrire une lettre à son paternel. « Mon cher papa, un ami, un petit copain français est parti. Ce fils à maman m'a dit « C'est Lyon, ma ville ». Alors, blâme-moi si tu veux, mais avec les sandales blanches que j'ai achetées, pour un instant, je me suis senti libre. Direction le Nord. Hein, comment fait-il pour rester aussi zen? Alors, pour se faire pardonner, il m'a acheté des...
Attention.
Des Tinder surprises.
Ah,
eh ouais, eh ouais. J'aurais préféré...
Les noms de toutes les chansons de l'album.
Voilà. Voilà,
qui sont mélangés dans un texte.
T'as tout à fait compris.
Donc, j'aurais préféré... Il n'est pas fini. Hein. J'aurais préféré qu'il me rende mes baskets à...
Il en manque.
J'aurais préféré qu'il me rende mes baskets à... Scratch.
Ah oui, baskets à Scratch. Les sandales blanches, bien sûr.
Ouais. Alors, je suis parti à sa rencontre et je me suis perdu. Que voulez-vous? Je n'aime pas l'hiver. C'est Tonio. Hein. Alors qu'il neige à gros flocons, j'ai traversé le désert de Tabernas.
Hein, oui, le cielto de Tabernas. Oui.
Ben oui, parce que je suis arrivé à la frontière anglaise, mal armé.
Alors, il y a une petite distance quand même, hein. C'est pas si près que ça. Hein.
Ouais, mais bon.
Ouh, à pied, tu vas? Non, quand même pas.
Oui.
À pied, de Tabernas jusqu'à Gibraltar?
Oui.
Oh, bah, t'es fort, hein.
Ben oui.
Bien, Michel.
Oui, mais après, on s'envole après. Bon, bref, donc mal armé, après en avoir débattu avec Tariq, justement. Ben oui, avec ma horde de cavaliers espagnols. Je l'ai repoussé jusqu'au rocher de Gibraltar, dis donc. Ouais. Avec le Brexit, plus moyen de rentrer sans montrer patte blanche. Hein. Je ne l'ai donc pas vu pousser son cheval dans le vide et voler dans les airs jusqu'au Maroc. Hein. Un sacré chef de guerre, mon co-animateur, Tonio, bonsoir. sacré chef de guerre. Hein.
Ah ouais. Salut Michel, salut Nicolas,
merci
salut à
pour
tous.
Ce texte.
Bah, c'est très fort, comme d'habitude, quand il y a un invité. Donc... C'est...
Ouais, mais toi, chef de guerre. Hein,
ouais. Bon, il y a quelques incohérences, hein, comme j'ai souligné.
Bon,
faire le désert de Tabernas jusqu'à Gibraltar à pied, bravo. Hein.
Oui, mais pour le... Par contre,
pour le fun.
Puis,
ouais,
puis tu revendiques bien ce rocher, quand même.
Bah, moi, je ne revendique pas, mais l'État espagnol, oui.
Ah oui,
moi, je ne revendique rien, moi.
Tu ne revendiques rien. Voilà. Bon, t'es déjà au moins à Gibraltar, au moins une fois.
J'ai jamais été à Gibraltar.
Bon, bah, tu l'emmèneras, Nico. Hein.
Avec plaisir. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le clip de Gibraltar, c'était en plein Brexit. C'était aussi la veille du confinement en France.
Mm-hmm.
C'était déjà le confinement au Maroc. Donc, le Maroc avait fermé sa frontière. Et on a réussi à rentrer un peu par miracle. Il n'y avait personne sur le rocher. C'est pour ça qu'on a ces images très vides, en fait. Il n'y a personne.
Oui,
quoi.
Oui, oui, oui.
Et le Britannique, l'histoire la plus dingue pour dire à quel point cet endroit que moi, je rêvais comme un lieu de rencontres, de connexions entre l'Afrique et l'Europe. C'est quand même une forteresse hyper militarisée.
Mm-hmm.
Et quand tu arrives, le cadreur avec lequel je suis arrivé, il est britannique. Il est arrivé avec une carte d'identité britannique pour entrer sur un territoire. Donc, Gibraltar est britannique, tout au bout de l'Espagne.
Ouais.
Et bien, il n'a pas pu rentrer. Donc, pour dire à quel point, ils lui ont demandé d'aller retourner chez lui en Espagne, récupérer son passeport, parce que en étant britannique, tu ne rentres pas sur un territoire britannique sans passeport britannique. C'était incroyable. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps à gérer ces histoires de frontières. Et c'est un miracle qu'on ait pu tourner ce truc-là en quelques heures. Voilà, ça nous a pas mal perturbé le tournage.
Mmh.
Bien.
C'est sûr que oui, comme ça, oui.
Allez.
Bon, bah, allez.
Vamos.
Ouais, venga.
Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Giuseppe, Georges ou Jo, hein, Mustachi ou Mustaki, italien, grec, égyptien, turc, français. Autant de questions que Georges Mustaki ne se posa guère lorsqu'il arriva à Paris en 1951, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il fut tour à tour journaliste, puis barman dans un piano-bar, pratique pour faire des rencontres. Celle avec un certain Georges Brassens, à qui il empruntera son prénom d'emprunt. Il fait aussi la connaissance d'Edith Piaf, pour laquelle il écrira une de ses chansons les plus connues.
Milord.
La carrière est lancée et Georges Moustaki est un compositeur et parolier incontournable de la scène chanson française. Yves Montand, Barbara ou Serge Zani, pour les plus connus. Il se lance à son tour en tant qu'interprète avec toujours autant de succès, Ma Solitude, Le Métèque ou Ma Liberté, hein, le morceau culte de ce soir, interprété en son temps et enregistré en 1967 par Serge Reggiani.
Reggiani, oui.
Voilà. Georges Moustaki n'a jamais enregistré ce titre en studio, c'est la raison pour laquelle j'en ai bavé, parce que je l'ai cherché, je n'ai jamais trouvé. C'est bête pour ça. Elle est enregistrée en public et on la retrouve par exemple sur l'album Bobino 70. Georges Moustaki, c'est aussi son rapport à la musique populaire brésilienne, hein, qui allait bien avec sa façon de chanter. Artiste engagé, hein, aussi bien en 68 qu'avec le morceau Sans la nommer ou proche des mouvements trotskistes, il personnifie la révolution permanente, une des théories principales de Léon Trotsky, dont on aurait bien besoin aujourd'hui. Une fidélité sans faille, confirmée avec le soutien qu'il apporte à Philippe Poutou lors des élections présidentielles de 2012. Il nous a quittés le 23 mai 2013, à l'âge de 80 ans. Donc, 3 ans plus tôt, Thierry Cadet et Mathias Vincenot créent le prix Georges Moustaki de l'album autoproduit ou indépendant. On n'y trouve que des artistes Radio B, hein, parmi les vainqueurs. Je citerai Mélis Mel, Lies Van Deuk, Léopoldine HH, Roby ou Vendeur d'Enclume. Y retrouvera-t-on notre invité d'un soir, Nicolas Tarik. Tu fais partie donc... Tu faisais partie des 22 artistes demi-finalistes parmi les près de 200 candidatures présélectionnées pour l'édition 2023. Donc, sept seulement seront sélectionnés par le jury et accéderont à la finale de ce prix. Alors tout d'abord, avant de parler de la suite, de la bonne nouvelle, tu as été surpris toi, de faire partie des 22 heureux élus.
Déjà, la surprise, c'est d'être sélectionné dans un tremplin. C'est toujours quelque chose de... Quand tu ne fais pas des disques en ayant des certitudes, comme c'est mon cas, du coup, tu ne sais pas du tout quelle va être la réception. Donc, c'est totalement aléatoire. En fait, c'est une vraie loterie, quoi. On ne sait vraiment pas. Donc, d'être sélectionné, c'était... Je me suis dit, ouf, il ne va pas tomber dans les oubliettes. Quoi. Je l'ai sorti en novembre, mais en mars, ça tombe bien. Ça tombe bien, ça me fait une actu, je vais pouvoir poster ça. Donc c'est... c'est chouette.
Tu vas pas venir à Radio B. Et en plus, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que tu annonces la bonne nouvelle que tu as pris hier. Donc
les radios, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir des retours de radio, dont Radio B, qui disent, il va y avoir une petite mise en lumière aussi là, machin. Et puis, bout à bout, ça fait exister un projet qui m'a pris quand même pas mal d'années avant. Donc ça, c'est chouette. Et après, encore et plus, puis, parce que c'est, ça nouvelle. S'appelle Georges Moustaki, c'est-à-dire un artiste qui se caractérise par le côté indépendant, militant, qui avait des idées, qui n'a pas fait une pareille, qui a fait une carrière sans se... c'est des époques aussi, c'est des ambiances particulières. Il a su aussi répondre à son époque. Il est beau cet homme, il a quelque chose quand il chante. C'est extrêmement ça met les frissons à tout le monde. Donc je pense que c'est un bon patronage. Quand on est artiste, on se dit c'est plutôt bien d'être sélectionné dans ce genre de projet, de prix quoi.
Donc la bonne nouvelle depuis hier, c'est...
Ah oui, c'est qu'on m'a écrit. Georges Moustaki, donc Thierry et Mathieu, les personnes qui s'occupent de ce prix-là, nous ont écrit en me confirmant du coup que j'étais dans les 7 finalistes. Eh oui. Donc j'irai défendre représenter l'album Gibraltar le 12 avril, on ne sait pas encore. Voilà, c'était prévu le 9 mars, mais ça a été repoussé. Mais en tout cas, à Paris, on sera avec 7 artistes. Et puis, certains que j'aime beaucoup. À me compter dans l'histoire. Mais oui, effectivement, c'est incroyable.
Donc, toi, t'es fan de ce genre de prix où finalement, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus?
Moi, je ne suis pas très compétition, pas très prix, parce que j'ai l'impression que quand tu perds, t'es dégoûté. Quand tu réussis, tu dis bon... ça met une pression aussi de te dire, puis tout ça se joue sur quoi, tu ne sais pas. Puis vis-à-vis des autres... on est déjà dans une société qui est hyper compétitive, et si j'ai fait de la chanson, c'est certainement pas pour me sentir en compétition. Et souvent, c'est les moments où je suis pas au meilleur de moi-même quand je dois jouer pour un tremplin. Et il y a une phrase que je me dis tout le temps quand je vais monter sur scène, je me dis toujours, en fait, un jury, c'est un public comme un autre. C'est-à-dire que peu importe, tu viens faire ton truc, il y a des conditions extérieures, il se trouve que c'est un cadre qui est compétitif, mais en fait, il faut toujours se dire... ne change pas qui t'es, essaye de faire ta... De vraiment connecter avec une personne, pas à travers peut-être ce qu'elle va percevoir de toi en tant que professionnel, mais plutôt en tant que qu'est-ce qu'elle sait, en quoi on est deux humains. C'est un petit groupe de personnes comme d'autres. Et j'essaie de rien changer, d'essayer de rester le plus soi-même tout le temps. Et puis, si ça marche, tant mieux. Voilà. C'est ce que j'ai bien aimé de faire un disque, c'est que tu le fais sans réfléchir à la réception, et c'est vrai que ça m'aide maintenant de me dire peu importe quels sont les concerts que je ferai, devant qui je le ferai, devant des gens qui m'impressionnent, que j'admire, il y a aussi des artistes qui vont être là et que j'admire, qui seront là, qui vont performer ce soir-là avec moi, peu importe, parce que le disque il est déjà fait. Donc en fait maintenant il n'y a que de la joie à prendre et à communiquer, et puis voir si ça marche, quoi. Parfois t'as des publics ça marche, puis des fois ça marche moins bien, et puis c'est pas grave, il y aura un prochain concert, quoi. Voilà ce que je me dis.
Alors que représente la chanson Ma Liberté de Georges Moustaki pour toi?
Je crois que c'est une de mes préférées, ma liberté. Il y a ma solitude, bien sûr, c'est toujours difficile de les partager.
Et puis en Méditerranée aussi, mais bon.
Voilà, il y a en Méditerranée, c'est mes trois. C'est mon trio. C'est mon trio de chansons.
Ouais.
Moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Libre, mais qui parle plutôt de la liberté amoureuse, ce qui est aussi dans le présent dans la chanson de.
Oui, il en parle aussi, ouais.
De Moustaki. Ouais. Voilà, c'est des chansons qui n'ont rien à voir, mais je pense qu'elles font un peu écho. Elles font un peu écho. Il l'a chanté merveilleusement. Alors pourquoi écrire une autre chanson? Bah, je sais pas. J'ai fait la mienne.
C'est un clin d'œil à la chanson.
Non, j'ai pas pensé. Vraiment une chanson que j'ai écrite pour quelqu'un que j'ai rencontré à ce moment-là. Et il y a cette oscillation, tu sais, au début d'une relation amoureuse, surtout quand c'est pas la première fois que tu tombes amoureux. Je pense que tu as ce truc où t'es pas encore en couple, mais plus vraiment juste amant d'un soir, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose, un équilibre, un point d'équilibre, et où il va falloir se décider un petit peu. Et du coup, c'était la question de la liberté amoureuse, jusqu'à quel point on peut rester libre tout en étant ensemble, en étant en couple. Ouais.
On en parlera tout à l'heure de ce morceau Liberté, je crois. Antonio ?
Oui.
T'as déjà repris du Georges Moustaki sur scène ?
Je crois que je m'y suis jamais essayé. Mais par contre, j'en ai écouté beaucoup. J'ai chanté autour dans des feux de camp et tout ça. J'étais scout, j'ai fait tout un tas de trucs. Mais pas sur scène. J'ai pas osé. Mais je pense que si je devais reprendre en Méditerranée, ça aurait beaucoup de sens, par exemple.
Ouais. Bien. Allez, il est l'heure de monter sur l'une des deux colonnes d'Hercule appelée Gibraltar. L'autre, c'est. Oh, c'est une montagne du Maroc, juste en face. Je ne connais pas le nom, là. Non, toi non plus?
Je l'avais, je l'ai sous le. Je te le dis après la pause.
Bien, ok. Alors Nicolas Tarik nous attend. Ah bah oui, hein. Envolons-nous direct. Parce que là, on est sur la montagne, donc on va s'envoler direction au terminus des Prétentieux. Eh bien, les 17 heures passées de 37 minutes ou les 90.0 de Radio B. Ou alors, Tonio ?
Ou alors, vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h ou celle du samedi après-midi, 14h.
Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste lyonnais Nicolas Tarik. Il est venu présenter son premier album, Gibraltar, sorti le 24 novembre 2022. Nicolas, tu as un parcours scolaire, universitaire et professionnel qui fait que tu aurais très bien pu ne jamais être chanteur. Mais les notes et les mots sont là en toi depuis toujours. Tu te souviens de tes premières émotions musicales et à quel âge ?
C'est très très jeune, hein, parce que j'ai la chance déjà d'avoir été baigné dans la musique. J'ai fait de l'éveil musical dès mes 3 ans, grâce à ma tante. Ma famille, du côté de ma mère qui m'a élevé, donc c'est ma mère qui m'a élevé avec ma tante. Et ni l'une ni l'autre n'avait accès à cette éducation un peu plus bourgeoise, liée à la musique, liée à certains sports, etc. Et elles le tenaient à pouvoir transmettre. Elles avaient la chance d'avoir un peu progressé socialement par rapport à leurs parents qui vraiment étaient de la ruralité, pauvres, de la Haute-Savoie. Donc en fait, bon, puis de toute façon, après-guerre, les gens étaient pas bien riches, globalement. Hein. Donc voilà, elles ont eu la chance de...
T'es pas né après la guerre.
Hein. Non, elles. Du coup, c'est juste que pour nous, pour ma sœur et moi, elles nous ont élevés. Elles voulaient nous apporter tout ce qu'elles n'avaient pas eu. Quoi. Et donc, ça passait par la musique. C'était très important pour ma tante. Elle nous emmenait tous les mercredis après-midi. À la fin de l'éveil musical, on avait un petit pain au chocolat, etc. Et ben, on peut dire, le premier émoi musical, déjà, c'est ce pain au chocolat, parce qu'il a beaucoup de sens. Il est la récompense pour qu'on continue d'aimer la musique, d'associer la musique à quelque chose de favorable. C'est pas toujours facile, le solfège, la théorie musicale, l'apprentissage aussi du piano à partir de 9 ans. On a mis du temps aussi à avoir un piano, donc on jouait dans le vide, on va dire. Tout ça, ça fait que j'ai vraiment ensuite découvert, grâce à elle, les concerts de musique classique, et puis les concerts de Michel Bernard, par exemple, pour qui j'ai chanté quand j'étais plus jeune. D'accord. Sur scène, grâce à l'école de musique où on était, qui était une école de musique aussi alternative, où les choses passaient beaucoup par le corps. Donc ça, je pense, c'est nos premières émotions musicales très, très jeunes. Voilà.
D'accord. Un instrument, donc tu as dit piano, il est arrivé bien avant la guitare alors ?
Bien avant la guitare, ouais. C'était parfois des vrais moments d'amour et de j'aimais mon instrument, etc. J'en jouais beaucoup, je composais déjà des petites pièces vers 10-12 ans, 11 ans. Après, au bout d'un moment, j'étais un peu rebelle, voilà. Donc il fallait que je prenne la guitare, que je m'émancipe du classique, que j'apprenne ouais. Le piano jazz ensuite, un petit peu pour reconnecter avec la musique.
Là, on passe à l'adolescence, là.
C'est ça.
Voilà, voilà. Donc forcément un rock, l'adolescence ?
Je me suis même plus ou moins viré du conservatoire de Lyon. Voilà, j'en suis pas forcément fier, mais j'étais parti dans quelque chose de différent au départ avec le côté un peu alternatif. Et puis, le conservatoire m'a quand même... aurait pu me plaire, je pense, aussi avec l'orchestre. Je ne faisais pas d'orchestre, je faisais beaucoup de théorie musicale ou des choses comme ça. Donc, je suis passé par autre chose que par le conservatoire, finalement. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je n'ai pas de regrets, quoi. Au contraire, j'ai gardé intact mon goût pour la musique et pour les mots, grâce et malgré l'éducation, la formation musicale et littéraire que j'ai reçue. Donc, au final, tout est bien. Tout est
d'accord.
Bien.
Bon, côté influence musicale à l'adolescence, il me semble que tu cites Bob Dylan, les Beatles, non ? Le rock, la chanson française, le classique, le jazz, la musique dite du monde, peut-être pas tout en même temps, j'imagine.
Je pense que j'ai toujours écouté toutes les musiques, tous les genres. Encore aujourd'hui, je vais écouter du rap, je vais tout écouter. C'est-à-dire, je suis très sélectif, mais pas par genre. Dans chaque genre, il y a un truc qui va me plaire. Quasiment, c'est quasiment sûr. Et j'aime bien comprendre les codes d'un genre. C'est pour ça que j'écris, par exemple, un mémoire sur le jazz quand j'étais étudiant, sur le free jazz et sur l'école de Francfort. Bon, là, bon. Donc, j'avais vraiment une passion pour le jazz. Mais dans le même temps, j'écoutais du rock, j'écoutais... Voilà, je pense que les mélomanes aiment souvent, dans ma génération, on écoutait aussi bien Radiohead, on écoutait Jeff Buckley, on écoutait Mano Solo beaucoup. C'est un peu les années sombres, c'est ces années un peu dures aussi. Quand on avait 13-14 ans, on était dans des questionnements sur. Il y avait Kurt Cobain, c'est une génération un peu dure. Hein, les années 90, on a eu pas mal de poètes maudits qui nous ont marqués et qui correspondaient à notre sentiment peut-être aussi de l'époque. Une forme de désespoir, mais il y avait aussi des beaux espoirs, des belles musiques qui nous ont emmenés. Et moi, notamment, les musiques du monde, c'était vivifiant parce que déjà tu comprends rien musicalement, tout ce qui était théorie musicale s'effondrait face à la complexité parfois de certains chants, de certaines rythmiques. Quand j'ai vu Daniel Waro sur scène au début, bon, après par la suite j'ai vécu dans l'océan Indien, quand j'ai commencé à découvrir le Maloya, le Sega, toutes ces musiques, etc., c'était plus de l'ordre de l'intellectuel. C'était vraiment... j'avais du mal à l'intellectualiser, cette musique, parce que je ne la connaissais pas. Donc, tu la prends en pleine poire, quoi. Et c'est ce que j'aime dans les musiques du monde, encore aujourd'hui, de se confronter à une expérience musicale. La musique Nawa, il y a un petit peu des touches comme ça dans l'album Gibraltar, je crois.
Ouais.
Et ça vient... C'est un peu ça. Tu dis, mais comment ça tourne ? Tu peux écrire la musique, mais tu ne la comprends pas vraiment. Comme s'il y a quelque chose de plus intime, du ressenti qui est dans le corps.
Et toi qui es un enfant avec deux cultures, pourquoi entre deux cultures ? On pourrait dire que t'es plus un enfant du monde qu'un Français ou un Européen ou un Africain. C'est un mélange des deux.
Je suis du monde, mais qui ne l'est pas. On est tous du monde. Mais comme en fait, mon père ne m'a pas élevé, mon père est algérien, mon père ne m'a pas élevé et du coup, je suis allé souvent en Algérie jusqu'à mes 5 ans. Et puis après, à mes 7 ans, mon père a un peu disparu de la circulation. Il y a eu une guerre aussi, la décennie noire en Algérie, ça a été extrêmement brutal. Et nous, ma mère coupait les radios, on n'avait plus accès à cette culture, cette connaissance, ce lien-là s'est brisé. Donc on s'est aussi construit sans, et du coup parfois aussi en évacuant dans une forme de déni de cette origine, donc de ce lien, de choses qu'on avait quand même ressenties.
C'était au fond de toi.
Alors ouais, c'est ça qui est fou, et qu'au final ça se ressent dans parfois des goûts, des postures, c'est fou tout ce qui se transmet par l'absence. Et finalement l'album raconte ça, c'est-à-dire... comment être présent à une absence, c'est être ouvert à tellement de tout ce qui pourrait la remplir. Et du coup, c'est ça, mon lien avec l'Allemagne, mon lien avec la Russie, puisque je suis parti 4 fois en Russie, mon lien avec l'océan Indien, quand j'ai travaillé avec des musiciens sénégalais, c'était cette présence à ce père avec qui c'était difficile de reconnecter à mes 17 ans, quand je l'ai revu, quand j'ai repris connaissance, conscience de cette culture, de mes demi-frères, de mes demi-sœurs, ce lien avec ma famille algérienne. Ça m'a permis, d'essayer d'être présent à cette altérité qui n'était pas tout à fait moi. Donc je suis pas tout à fait africain, mais je suis d'origine africaine. J'ai un père qui est africain. J'ai des demi-frères et demi-sœurs qui sont africains, qui sont algériens, qui sont de l'autre côté, voilà, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi j'ai cette part de un peu de l'autre côté, quoi. Voilà, et c'est ce que raconte l'album Gibraltar totalement. C'est pour ça Gibraltar, c'est vraiment cette vigie au milieu du bassin méditerranéen. On revient à Moustaki, sur ce lien entre les deux rives. Et je suis très content parce qu'on a réussi à passer de l'autre côté. Et ce n'était pas gagné. Voilà, j'ai quand même ce côté, je suis vraiment 100% français. J'ai cette culture française. Et puis j'ai ces 10% ou ce quelques pourcents de plus qui m'emmènent vers autre chose et que moi-même j'ignore tellement, dont je n'ai pas toute l'épaisseur et que je ne cesse de découvrir. Et l'album m'a permis d'y aller vraiment, d'aller découvrir ça. Donc ça, j'en suis très, très heureux, ouais.
Bon, côté études, tu as fait pas mal de... Tu as fait plein de choses, avec beaucoup de réussite dans l'ensemble.
Oui.
Tu as un beau parcours universitaire. Quand je disais tu aurais pu ne jamais être chanteur, c'est vrai.
Je pense que j'ai...
Parce que t'as longtemps, t'as travaillé comme ça. T'as eu un vrai métier. Les salauds. T'as eu un vrai métier au début.
Ouais, mais
ça va faire plaisir aux gens, ça.
C'est pas politiquement correct pour les chanteurs. Non. Après, il faut voir aussi qu'il y a des métiers qui sont pas faciles. Il y a des pénibilités et tout ça. On en parle beaucoup en ce moment. Et qui font qu'à un moment, quand t'es chanteur, toi-même, tu ne sais pas que tu travailles. Et même toi-même, parfois, tu travailles 70 heures par semaine, mais tu ne te dis pas que tu travailles et tu n'oses pas trop dire aux gens que tu as travaillé. Mais parfois, ça, tu peux te sentir vexé parce qu'à un moment, c'est quand même beaucoup de taf. Mais en tout cas, moi, j'avais fait plein de métiers avant. Plein de métiers avant. Et on parlait des frontières. Moi, j'ai été présent à plein de métiers. Alors, beaucoup quand même, c'est le même métier, en fait. Si tu veux, c'est les mots, c'est toujours l'humain, enfin, c'est toujours les mêmes réalités, puisque j'ai travaillé dans le social pendant 6 ans. J'ai été dans le plaidoyer, tu vois, aussi par rapport dans le social, donc au début, sous-début. Je travaillais pour une fédération une des fédérations françaises qui s'occupe de la lutte contre les exclusions, donc qui fédère tous les établissements, hébergements d'urgence, etc., etc., qui s'occupe des personnes clandestines, réfugiés migrants, etc. Donc on parle d'exclusion, tu vois, l'album, de quoi il parle d'exclusion. Et puis comment je défendais, c'était mon boulot, hein, je devais aller voir un préfet, puis un média, puis le lendemain j'étais dans la rue avec Eddie, qui est un monsieur qui vivait à la rue, qui avait 18 ans de rue, qui avait des chiens, qui avait une tête pleine de piercing, qui sentait très fort, etc. Voilà, tout ça, c'est des réalités humaines. Et puis, en fait, c'est lui qui t'apprend tellement de choses. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir apporté beaucoup à la lutte contre l'exclusion, mais je dirais que la lutte contre les exclusions, elle m'a apporté beaucoup de choses, parce que toutes ces discussions, t'es confronté à tellement de destins. De croiser les destins et d'essayer de connaître les gens et de comprendre vraiment ce qu'ils ont à dire. Et au bout d'un moment, le plaidoyer, c'était même plus à moi de le dire. Et finalement, c'était ce monsieur, c'était Eddie qui allait à la radio. C'était, tu vois, ces gens qui ont des choses à dire. Voilà. Et mon boulot, c'était de les aider à prendre cette parole. Parce que voilà, on ne leur fait pas toujours la place qu'ils méritent. Et leurs avis, parfois, sont hyper intéressants sur qui on est en tant que société. Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc, en fait... Après, j'ai fait d'autres métiers. J'ai travaillé un peu à l'île Maurice. J'avais besoin d'un boulot alimentaire. J'étais dans la communication. Et puis, mais sinon, voilà, le social principalement. La citoyenneté, je travaille pour une mairie, voilà. Mais je dirais, je n'ai pas changé de métier. Quand les gens me disent... c'est vrai que sur le moment, quand je suis devenu artiste, je me suis senti très inutile. Parce que quand tu es dans le social, parfois, tu souffres de cette utilité. Parce que tu n'as pas toujours les moyens de ton action. Donc, c'était dur parfois. Parfois, tu te dis, quand même, là, on est en train de rater quelque chose. C'est dur de devoir... des fois, tu dois abandonner parce qu'il n'y a plus les moyens, parce que tu n'as plus les possibilités d'aider les gens. Mais tu sais que cette société, elle détricote tous les jours ce que toi, tu essaies de tricoter chaque matin. Et tu sais que les trous sont béants, donc c'est dur parfois. Mais quand tu... Et donc, en devenant chanteur, je me suis dit, en fait, tu sers vraiment à rien. Tu es là, tu chantes tes chansons, tu te fais plaisir, tu racontes ta vie, tes histoires d'enfance. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, je me rends compte en faisant le disque que je continue le même... C'est la même chose. C'est toujours une question de lutte contre les exclusions. C'est toujours avec des mots. C'est toujours face à des vrais humains aussi. Et on est juste... C'est juste que j'ai changé de point de vue. Je continue de faire une forme de plaidoyer. Par contre, j'essaie de plus parler au nom des autres et de me consacrer à ce que moi, dans mon expérience singulière, je peux dire quelque chose qui a à voir avec l'universel, de cette question de l'exclusion, de cette question du lien.
Donc, si les notes sont arrivées très, très, très jeunes, quand sont arrivés les mots pour en faire des chansons?
Les notes sont arrivées à 11 ans, je pense, de faire des petites compos. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des cassettes et tout, trop marrantes. De compos au piano et tout. Et en fait, il y a même des bonnes idées des fois. Et je vais me plagier moi-même avec pas mal d'années, dizaines d'années d'écart. Les mots sont... J'ai écrit ma première chanson. C'était une chanson qu'on pourrait dire chanson pour enfants à 16-17 ans, je pense. En seconde, quand je faisais de la guitare. C'est la guitare qui m'a aidé, qui m'a libéré là-dessus. Et j'ai pris mon pied, j'ai adoré. Ça s'appelait René Pot-de-Bise. C'était l'histoire du chat de mon voisin, qui s'appelait René Pot-de-Bise. Et voilà. Puis après, j'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. Et par contre, je me suis jamais dit que je ferais chanteur. Jamais. D'ailleurs, je les chantais pour mes copains. Et puis, je sentais que je saoulais tout le monde dans les soirées. Tu sais, au début, tu sais pas comment. Quels sont les bons moments pour chanter. Donc, tu saoules un peu les autres. Puis, au moment, tu dis, je vais chanter, j'ai gardé ça pour moi. Et donc, j'ai écrit des centaines de chansons. Quoi. Et c'est qu'en 2012 que je me suis dit, des années, 10 ans après, que j'ai commencé à me dire, j'en ai quand même beaucoup, j'aimerais bien en garder une trace. J'ai fait un album. Ouais. Puis après, les gens m'ont dit, mais c'est vachement bien et tout.
Un EP.
Un premier EP.
Qui s'appelle Amour d'hiver.
Exactement.
En 2014. T'étais à Blois à ce moment-là, c'est ça?
Ouais.
D'après ce que j'ai lu? Ouais.
Exactement. Je travaillais pour une mairie à Blois.
D'accord.
Et nécessaire de coucher le truc. Et là, ils m'ont dit, alors tu prends quoi comme nom de scène, machin? Je fais, mais Nicolas Tarik, parce que c'est mes deux premiers prénoms. Personne ne peut me les voler, j'ai pas besoin de faire un dépôt, je sais pas quoi. Donc j'ai pris, vraiment, c'est un hasard, quoi. C'est un hasard. Et en fait, après, j'ai fait une pré-vente parce que je me suis dit, faut quand même que tu rembourses tout ça. Donc, ça engageait un peu d'argent, très peu en fait. Mais bon, sur le moment, je me suis dit, tu vas vendre ton truc sur Internet, machin. C'était la mode à l'époque, Bandcamp, tout ça. C'était les débuts. À l'époque, personne connaissait encore trop le mécanisme des collectes, etc. Mais donc j'ai testé ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, un, qui l'achetaient, deux, qui commençaient à en parler sur les réseaux. C'était aussi un peu des moments où Facebook s'était vraiment bien installé, les réseaux sociaux, machin. Donc tu vois les réactions des gens en réel sur les internets, quoi. Alors que je n'avais jamais fait de concert. Et je voyais des retours qui m'ont beaucoup touché, tu vois. Et tu te rends compte, il y a des gens que tu ne connais pas, qui n'ont rien à voir avec toi, que peut-être ils ne t'aimeraient pas dans la vie, ou que tu n'aimerais pas dans la vie. Mais eux, ils kiffent ta chanson, ils l'écoutent, ils se la passent, ça leur évoque des choses. Et là, je me suis dit, je ne vais jamais arrêter de faire des disques. C'est un truc... partager ça avec des inconnus, c'est un truc dingue. C'était une très belle histoire.
Donc, le premier EP, donc Amour d'hiver en 2014, tu étais à Blois. Un deuxième EP, Les Insomnies, en 2017, tu étais à Maurice.
Oui, j'étais à Maurice. Là, j'avais, du coup, les gens m'avaient dit, écoute, il faut que tu fasses des concerts. Maintenant, j'ai dit, mais t'es sûr, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait tout. Donc, j'ai commencé à tourner en France. Puis après, en arrivant à Maurice, on a dissous on avait un groupe avec des musiciens sénégalais qui sont des amis. Et moi, je jouais pour leur set et eux, ils jouaient pour mon set. Donc, comme ça, on a mutualisé les coûts. C'est moi qui conduisais la voiture, donc je devais être sobre de A à Z, etc. Et puis eux, c'était la teuf et tout ça. C'était toute une équipe, vraiment de très, très bons copains. Et donc, progressivement, on s'est mis un peu des objectifs. On se disait, quand même, on fait un petit concert, mais on pourrait faire un truc plus... Voilà, et on s'est trouvé vraiment au niveau d'apprendre un peu à faire des concerts, quoi. Apprendre le son, la sonorisation, etc. Moi, je ne connaissais pas trop. Eux, ils avaient beaucoup plus d'expérience que moi, donc j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Musicalement aussi, leur rythmique, c'est complètement nouveau à l'époque pour moi. Et du coup, après, je pars à l'île Maurice. Malheureusement, ça met un peu fin à cette aventure, un peu prématurément. Mmh. Et là-bas, je tombe sur des musiciens très forts qui me proposent des choses. je pense que j'étais un peu en tant que chanson française, enfin en tant que chansonnier de chansons françaises ou d'auteur-compositeur, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas très représenté à l'île Maurice à ce moment-là. C'était le début des festivals aussi, je pense qu'il y a un vrai réveil ou une vraie économie du festival de musique qui est en train de naître à l'île Maurice et puis partout en Afrique actuellement, partout dans l'océan Indien. C'est vraiment passionnant de voir arriver, tu vois, des artistes locaux qui répondent un peu à des codes modernes du festival de musique. Qu'est-ce que c'est être un mauricien, musicien mauricien, artiste qui se produit sur scène dans le cadre de festival. Donc moi, j'ai découvert ça un peu à ce moment-là. Et du coup, bah, ils m'ont fait vraiment une place importante. Dans les médias, on a pu tourner, on a pu faire des tournées chouettes, quoi. On a fait un Sac Il Faut, on a fait plusieurs festivals un peu connus, les principaux festivals de là-bas, sur des petites scènes, mais néanmoins avec des musiciens très chouettes, très forts, professionnels. Où je me disais, ah ouais, là, je suis un peu en limite. Je suis en limite de compétences, de compréhension du truc. Et ça m'a donné envie, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des gens qui vraiment en vivaient d'écrire des chansons, qu'on pouvait tourner, que ça intéressait des gens. Et là, je me suis dit, bah, c'est quand même quelque chose qui était au fond de moi. En fait, non, je ne me suis pas dit. C'est mon corps qui était en train de s'adapter à cette vie. Parce que j'étais nocturne, j'étais dans les insomnies, je travaillais le jour dans la communication et avec des collègues mauriciens, français, du monde entier. C'était très chouette et on s'adore. Enfin, moi, j'ai toujours des liens avec certains d'entre eux que j'adore. Mais malgré tout, au fond, c'était pas pour moi. Je voulais. Il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place et toutes les nuits, j'étais soit en jam, soit en train d'écrire des chansons. Fils à maman qui est dans l'album. Un ami, je l'avais déjà écrite quand j'avais 20 ans. Il y a beaucoup de titres qui sont nés à ce moment-là. Mon cher papa aussi. Enfin, voilà, beaucoup de titres. Et donc voilà, donc j'ai fait ce disque. Alors, avec les musiciens mauriciens que je connaissais là-bas, dont un musicien indien, mm-hmm. Qui joue des dolaks, parce que c'est très indien, Maurice, en termes de culture. Voilà.
Donc un premier EP à Blois, un deuxième EP à Maurice. Entre temps, t'es revenu à Lyon.
Je suis revenu à Lyon il y a 5 ans.
Ouais. Enfin, Lyon à peu près, hein. Pas tout à fait Lyon, je crois.
Non, là, j'ai redéménagé. Ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas loin.
Non, c'est la région lyonnaise.
La région lyonnaise. Et avec, elle a encore un nouveau disque. Là, carrément, c'est un album. C'est le premier, on peut dire que c'est le premier album.
C'est le premier album. Hein, c'est vrai que j'ai quasiment effacé les deux premiers. Ils sont encore trouvables.
Ah oui, j'ai déjà écouté.
Je les garde.
Ils sont bien, en plus.
Eh ben,
j'ai écouté,
sympa.
Ils sont bien. Ouais. J'ai pas été demander de les amener, tiens, tu vois. Non, mais si, j'ai réécouté. Okay. Je supporte bien la comparaison.
Eh ben, chouette.
Voilà. Ouais. Bon, donc l'album s'appelle Gibraltar. Il est sorti le 24 novembre 2022. Avant d'en parler, on va quand même l'écouter. Parce qu'on cause, c'est bien, mais mm-hmm. Tu te déshydrates.
Eh bien, on va écouter le morceau qui donne le titre à l'album.
Où va-t-on?
Gibraltar.
Ben voilà.
Allez.
En arabe?
Jebel Tariq.
Voilà, il le dit mieux que moi. Nicolas Tariq.
Mon accent n'est pas terrible.
Elle lit Tar Ben Jeloni, des histoires d'amour interdits, d'amour par-delà les mers, de princesses du désert, des histoires. Elle rêve pour ce peuple de lendemain qui chante, son espoir est immense, immense comme le ventre de cette nouvelle patrie, de ce ventre dont sort la jeunesse d'Algérie. Elle pense à ce rocher, cette histoire, tout au bout de l'Espagne, Gibraltar. Elle pense à ce rocher, cette histoire, Gibraltar. Elle enseigne l'architecture 1970 à Alger. Un jeune homme lui a plu de leurs amours métisses. Son nez bien des voyages, tant d'idées généreuses, aventures sans bagages de leurs amours métisses. Son ventre fécondé a grandi devant elle. Elle attend un bébé, son premier, un fils. Elle pense à ce rocher, cette histoire, tout au bout de l'Espagne, Gibraltar. rocher cette histoire. Gibraltar.
À l'enfant qu'elle porte, elle veut donner un nom, mais le père lui dit non, sur le pas d'une porte. Il doit grandir en France. Ce sera difficile au sortir de l'enfance. Donne-lui un nom d'ici.
Alors, elle obéit et elle cache le nom. À l'intérieur du nom, invisible. Elle pense à ce rocher, cette histoire. Tout au bout de l'Espagne, Gibraltar. Et l'Afrique, Jebel Tariq.
Gibraltar, un extrait de l'album Gibraltar de Nicolas Tariq, sorti en novembre 2022.
Donc Gibraltar qui a fait l'objet d'un clip. Mmh. Donc voilà, quelqu'un t'a suivi alors Gibraltar.
Voilà, c'est exactement. C'est le Jebel Moussa qu'on cherchait tout à l'heure, la deuxième colonne d'Hercule, voilà. Qui ne s'appelait pas comme ça au départ et qui a pris ce nom par la suite.
Du côté du Maroc. Hein.
Voilà. Côté marocain, c'est la deuxième colonne d'Hercule en face de Gibraltar. C'est comme voilà, une porte, et c'est une porte dans les est-ouest, puisque c'est là que passent les cargos, mais c'est aussi dans l'autre sens, nord-sud.
Et au milieu coule une rivière, c'est ça, ouais, voilà. Oui, donc ce clip Gibraltar, c'est bien, parce que moi, en plus je ne connaissais pas, donc c'était un voyage...
Moi non plus, je n'ai jamais été à Gibraltar, non.
Pour toi c'était évident, quoi, parce que Gibraltar, fallait aller à Gibraltar.
Ouais, c'est comme une quête, tu sais, tu fais un album au départ. Moi, je m'étais posé la question, j'avais plein de chansons et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais raconter? Parce qu'un album, c'est autre chose, tu cherches une forme de cohérence, tu veux pas juste une chanson qui marche, puis une autre chanson qui marche, tu veux raconter. Et je me suis dit, si tu dois raconter quelque chose, vu que tout n'était pas écrit, quoi de plus... Enfin, il y a des choses qui bougeront pas. C'est-à-dire que ça marche pas, que les gens s'intéressent, que les gens s'intéressent pas. Il y a des choses où toi, tu seras contente de les avoir racontées, de les avoir mis au jour, quoi. Et je me suis dit, on va faire une aventure. Et cette aventure, elle va s'appeler Gibraltar. J'avais déjà le titre. On va partir jusqu'à ce rocher. Et je vais faire vraiment la démarche, en fait, d'y aller. Parce que si j'y vais pas, c'est comme... c'est comme si je mens, tu vois. C'est comme si je dis que c'est important et puis je le fais pas. Voilà. Et je pense que dans la vie, on est nombreux à rêver notre vie. Ce qui est difficile, c'est le moment où tu dis « Allez, vas-y, je vais faire le rêve ». Et en fait, tu te rends compte que le rêve, il va te coûter très cher. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et peut-être, au bout, la réalité que tu vas découvrir, elle n'est pas aussi belle que ton rêve.
Alors ?
Mais elle n'est pas aussi belle, c'est vrai. Ouais. Quand tu vas à Gibraltar, tu te rends compte qu'il y a 400-500 migrants qui meurent là, en bas de ce rocher, tous les ans. Tu te rends compte que... c'est un haut lieu du trafic, la drogue, que les différences de niveau de vie entre Europe et Afrique font qu'aujourd'hui, pour les Marocains par exemple, c'est l'économie qui est protégée du hashish, mais qui est interdite de l'autre côté. Donc c'est un commerce parallèle qui fait aussi des victimes. Tu te dis, il y a quand même plein de pauvres gens ou de jeunes gens qui sont là sur des hors-bords à attendre de pouvoir passer parce que la douane les traque. Puis de l'autre côté, tu as des jeunes gens qui sont douaniers, qui courent après des gens peut-être armés et qui prennent des risques. Tout ça, c'est des choses évitables. On peut dire que c'est notre organisation humaine qui fait qu'on a la forteresse Europe. C'est les différences de niveau de vie d'un côté et de l'autre. Mais c'est aussi parfois des gâchis humains. Donc, toutes ces rêves qu'a eu ma mère en m'appelant Tariq, qui sont quelque part... je pense que mon père et ma mère ont choisi d'avoir un enfant, malgré la distance qui les séparait, alors qu'ils étaient en Espagne, pour la Coupe du Monde 82. Et du coup, quand elle m'a appelé Tariq, je ne sais pas ce qu'elle avait en tête, parce que bon, après, ces choses varient. Mais je sais qu'elle connaissait l'histoire de Tariq Benziad.
Ça aurait pu être Naranjito. Heureusement. Hein. Oui. Non, excuse-moi.
Donc c'est la mascotte de la Coupe du Monde 82.
Ah d'accord,
c'est pour ça. Oui, t'as pas notre âge, toi.
J'ai un briquet avec une sorte de mascotte dessus, je pense que c'est ça.
Ça doit être ça, ouais.
T'as pas connu France-Allemagne 82, toi.
Et voilà, France-Allemagne, maman. C'est comment ? C'est France-Allemagne.
France-Allemagne 82.
Il y a aussi Algérie-Allemagne, c'est ça ?
Aussi, oui.
Voilà, donc c'était très dur pour les Algériens. C'est la première fois qu'ils étaient en quart de finale. Ils auraient pu.
Non, c'était le dernier match du premier tour, mais ils s'étaient arrangés. Non, l'Algérie avait battu l'Allemagne 2-1. Mais le dernier match avec l'Autriche, ils s'étaient arrangés, ils avaient fait 0-0. Ouais. Et de ce fait, l'Autriche et l'Allemagne étaient qualifiés et pas l'Algérie.
Voilà.
Donc, ils n'avaient pas joué le match. Comme la France, elle fait avec le Danemark régulièrement, que ce soit en 2018.
Tu vois, je n'ai pas été très attentif quand on m'a parlé ça. Mais à chaque fois, c'est un truc qui revient dans la bouche de mon père et des Algériens de l'époque.
Je pense qu'ils l'ont mauvaise depuis. Et nous aussi, d'ailleurs. Et aussi. Voilà.
Bon, ça c'était pour la parenthèse. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Donc, Gibraltar, un album, un album forcément quelque part autobiographique, qui part de l'enfance à quand ? Tu t'arrêtes quand ?
Maintenant. Hein.
Maintenant ?
Ah bah ouais.
Maintenant, là, aujourd'hui ?
Ah ouais.
Ouais. Il y a des chansons qui sont.
Je pense au 24 novembre.
Très actuel.
Le jour où j'ai sorti l'album, j'ai fini de comprendre l'aventure. C'est la fin de l'aventure. Parce qu'il fallait que je revienne. Je suis parti parce qu'en mai, j'étais en Algérie, etc. Donc, il y a aussi des choses que j'ai apprises à ce moment-là. Et j'ai compris des choses sur moi, sur ce passé dont je parlais. Et il a fallu sortir le disque, le présenter devant des gens et faire le constat de qui était dans la salle, qui n'était pas, pour dire, OK, c'est une nouvelle page qui se tourne. Et dans ma vie, ça y est, je suis dans une nouvelle phase. C'est sûr, c'est le jour de sortie d'album qui a...
Ah ouais ?
Ouais, c'est très étonnant. Ouais.
Bon, cet album, il t'appartient toujours ?
Il m'appartient toujours, il est dans mon passé et il sera dans mon actualité tant que je le défendrai, tant que je le représenterai, il sera là pour toujours. Mais il représente narrativement, c'est une phase de vie que je suis sur une nouvelle phase maintenant, je pense.
C'est presque, t'aurais pu, à la place de faire un disque, t'aurais pu écrire un livre sur ton histoire.
J'y pense, parfois je me dis aussi d'écrire une...
Voilà. Un petit peu, ça pourrait, hein.
D'écrire une histoire, l'histoire de ma mère, c'est dingo. L'histoire de ma mère et de mon père, c'est encore plus fou. Et l'histoire de mon père, alors là, il faudrait plusieurs romans. On pourrait continuer sur les arrière-grands-pères, les grands-parents.
Je parlais de ton histoire à toi.
Ah, moi, j'ai une histoire.
Rien que ton histoire. Tu racontes ton histoire à travers ces douze chansons.
Hein? C'est vrai. Ouais, c'est mon histoire. C'est beaucoup de l'enfance. Il y a un tiers l'enfance, un tiers des chansons d'amour quand même. Il y a pas mal de chansons d'amour qui sont plus actuelles, je pense. Je parle vraiment de Tinder, de choses qui n'ont rien à voir avec mon enfance. Et heureusement.
Qu'on retient peut-être moins, parce qu'elle nous touche peut-être moins, parce qu'on dit tiens,
Tu as raison. Les gens m'en parlent un peu moins. Après, Libre, il y a un très beau clip qu'a fait Colline Godino. J'ai adoré les images, j'ai adoré le couple d'acteurs qui sont aussi devenus des amis.
La chanson Libre.
Et Libre marche bien. Tinder, elle est bien marrante, tu vois, quand tu fais sur scène. Puis ça, c'est bien aussi de pas rester que dans des choses, tu vois, biographie, d'autobiographie, voir où peut y avoir aussi des souffrances ou des traumas d'enfance.
Tout à fait.
C'était bien d'amener toute la
légèreté,
la dynamique de ma vie. Aujourd'hui, je suis pas dans les pleurs et la douleur ou la souffrance tout le temps, quoi. La plupart du temps, je mène ma vie, tu vois, avec. J'ai beaucoup de joie aussi dans ma vie. Ouais, j'ai pas que de la joie, mais j'ai aussi de la joie. Et donc c'était pour montrer aussi d'autres aspects. Donc voilà.
Donc un album enregistré pas n'importe où quand même. Comment on arrive à enregistrer ? C'est vrai ? Enfin pas n'importe où et pas avec n'importe qui. Voilà. Bon.
Alors pas n'importe où. Bah déjà une partie des enregistrements a été fait. Chez Stéphane Pio à l'Hacienda à Sainte-Colombe-sur-Gand. Donc Stéphane Pio, c'est quelqu'un qui humainement et artistiquement m'a amené énormément de choses parce qu'il a de l'expérience. Il m'a amené toute l'expérience que je n'avais pas. c'est un puits de science. Puis c'est surtout quelqu'un qui vient toujours compenser là où... au moment où tu commences à te, tout le monde commence, tous les musiciens, etc., commencent à se fatiguer, ils remettent de la dynamique. Au moment où ça s'échauffe trop, ils te, ils ramènent, tu vois, du calme et tout ça. Donc ça déjà, ça aide énormément humainement quand t'as quelqu'un de ce, qui a cette, ce, ce tact, cette finesse, cette expérience, cette aide, tout ça aide toujours. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées aussi à la maison, puisque j'ai enregistré chez moi une bonne partie, plutôt chez ma maman, puisque à ce moment-là, j'habitais, ma mère n'était pas là, donc j'ai occupé le salon de ma mère, où j'ai, donc le, l'endroit où j'ai grandi, tu vois, c'est complètement dingue. Ça aussi, ça fait un peu partie de l'aventure. Et du coup, là, j'ai pu enregistrer quasiment tout, en fait, en dehors des contrebasses et des batteries, quasiment tout a été fait dans ce salon-là.
D'accord.
Avec mon propre matériel, avec, donc j'ai dû apprendre la, grâce au confinement, merci le confinement, hein, c'était, c'est un peu ironique parce que ça devait être un 6 titres, c'est devenu un 12 titres à cause de cette histoire de 2 ans bah, où ça nous a complètement freinés en tant que tous. Mais en partie, enfin non.
Enfin, bon, nous aussi. On l'a fait 2 fois plus. Donc,
Je remercie, voilà. Je remercie maintenant. Voilà. Sur le moment, c'était dur pour nous tous, pour tout le monde, je pense. Mais finalement, l'avantage, c'est que j'ai plus de chansons. J'ai un album, un vrai album, 12 titres, c'est quand même déjà un truc où tu te dis, je dois l'assumer. Ce n'est pas un EP, quoi. Et puis, donc j'ai appris la prise de son. Donc, apprendre la prise de son, je faisais déjà de la prise de son depuis 2012. Mais quand même, là, je me suis un peu poussé dans mes retranchements. J'ai enregistré un Stradivarius dans le salon de... dans le salon, quoi, tu vois, c'est des moments incroyables. Un violoncelle, un trombone.
Les musiciens sont carrément venus chez toi.
Ils sont carrément venus à la maison, puis c'est n'importe quel musicien, tu vois.
Heureusement que ta mère n'était pas là, alors.
Ouais, elle n'était pas là.
Elle aurait gueulé.
Non, elle a été très cool. Jusqu'à récemment, elle a été très cool. Bon, après, il fallait aussi qu'à un moment, elle puisse revenir.
Elle n'a pas tout vu. Ouais, c'est pour ça.
Non. Ouais. Non, mais ça a toujours été tranquille. En dehors de quelques jams un peu tard dans la nuit où les voisins ont pu être un peu surpris d'entendre du violon à 3h du matin. Mais ça arrivait très, très rarement quand même. Je suis un voisin, je pense, assez cool. Ça.
Donc, quelles sont les musiciennes et les musiciens, musiciennes et chanteuses et musiciens invités? Comment on fait ces choix? C'est des gens que tu connais depuis longtemps? Des gens que tu avais envie de travailler avec?
En fait, je voulais que le projet ressemble à... En fait, pour moi, l'album, c'est le résultat. Finalement, l'album, pour moi, il comptait moins que la méthode, entre guillemets. Et dans la méthode, quelque part, je ne me suis pas facilité les choses parce que j'aurais pu prendre une équipe qui marchait déjà. J'ai déjà fait ça aussi dans le passé. Tu prends une équipe qui existe déjà, qui fonctionne, un groupe qui te plaît, un basse-batterie qui fonctionne déjà. C'est déjà des avantages pour toi parce que tu vas arriver avec un groove qui existe. Donc, tu n'as pas à le reconstruire. Et donc, dès le début, j'ai choisi une contrebassiste parce qu'elle me touchait. Et un batteur parce qu'il était mauricien et que je connaissais par des amis et que j'adorais comment il jouait. Alors que je ne savais pas encore s'il allait avoir des titres. D'ailleurs, il n'y a pas de titre. Il y a un titre ternaire, etc., où il fait des miracles. Enfin, il y en a plusieurs, d'ailleurs, des titres ternaires. Mais c'était pas Sega, quoi. J'allais pas faire un album Sega. Non. Pourtant, j'ai pris le gars d'abord en me disant Christophe, je le sens, c'est cette personne. Et je les ai mis en contact. Donc Leïla Soldevila qui sort des plus grandes écoles, du Conservatoire supérieur de Lyon, etc., en contrebasse. Et Christophe Chrétien qui est un mauricien qui lui a appris vraiment, qui s'est fait accepter sur le tard dans le milieu du jazz parisien le plus exigeant, du groove, etc. Donc deux musiciens qui se connaissaient pas. Et ils m'ont dit, mais tu sais, tu prends un risque. Sauf qu'au bout d'une heure, que je les voyais en train de rire et se montrer des trucs et jouer et créer quelque chose ensemble, je savais que ça allait marcher. Et j'ai fait tout comme ça. C'est-à-dire d'aller chercher des gens les plus différents, les plus opposés dans leur style, dans leur fibre, mais parce qu'ils avaient quelque chose à dire pour ce titre, parce qu'il y avait un propos, parce que je voulais dire quelque chose et qu'ils étaient la personne pour faire ça. Par exemple, je savais que Lyon, ma ville, je voulais quelque chose de très puissant, très imposant, très épique, ce qui est pas forcément, tu trouves pas forcément ça énormément dans la chanson française à texte actuellement, tu vois. Je m'étais dit, on va faire un orchestre, on va faire quelque chose de vraiment, des arrangements de cordes, le truc, et puis c'est pas grave si c'est pompeux, moi je veux justement quelque chose qui soit dans cette esthétique-là. C'est ça qui m'intéressait. J'avais des références complètement folles du côté du rock, etc. Et je me suis dit, je vais faire appel à un violoniste. Donc j'ai demandé à Pierre Colombet, je ne savais même pas son pédigré, je ne savais pas qu'il était un des premiers violons d'un des quatuors les plus connus au monde, en tout cas français, des plus connus au monde, qui viennent de Paris. Et il est venu, j'ai découvert après son CV, tu vois. Et je fais, c'est un peu impressionnant. Voilà, c'est un coup, tu dis, mais pourquoi il est venu là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et je lui disais, mais t'es sûr? Comment ça se fait? Et il dit, mais moi, c'est intéressant ce que tu dis. Il vient avec sa modestie, son humilité totale. On va jouer toute la nuit. Enfin, tu vois, il y a ce côté, c'est des rencontres. C'est des vraies rencontres avec des gens qui ne viennent pas du milieu, qui n'ont jamais fait un album. Alors si, il a fait un album avec Bernard Lavillier, avec Stacy Kent, etc. Bon, on peut dire qu'il connaît la chanson française. Mm-hmm. Mais l'essentiel de ses albums, c'est le quatuor ébène, c'est-à-dire Beethoven, c'est de la musique classique. Et c'est quelqu'un qui vient vraiment du classique, qui a une manière de voir la musique, qui est issu de ça.
Mais toi aussi, non?
Eh bien, on s'est compris un peu là-dessus. C'est une forme d'extension de mon petit... Parce que mon petit savoir de musique classique est très, 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 très limité comparativement. Ouais. Et donc, voilà, chacun est venu comme ça. Amin Soufari, qui est aussi un musicien de musique classique, mais qui est né dans le même village que mon père. Lui, il est algérien, donc il avait cette culture orientale. Et c'est un pianiste, c'est lui qui fait le piano dans Mon cher papa. Samira Abramia, c'est une grande chanteuse algérienne, mais qui est aussi berbère, mais qui est aussi africaine, qui est aussi une femme, comme elle dirait. Donc, qui est quelqu'un qui a la croisée de plein de, tu vois, plein de communautés, plein de caractères. Elle a des caractéristiques qui expliquent comment elle chante, qui disent qui elle est. Et il suffit qu'elle commence une note et tout de suite, elle met tout le monde d'accord. C'est magnifique quand elle chante. Voilà, chacun de ses invités était des gens que j'avais rencontrés. Jerry, je l'ai rencontré, c'est un Mauricien aussi, donc qui fait du jazz, piano jazz à Paris, qui est premier prix de Montreux Jazz Festival. C'est pas important les compétitions, on l'a dit, mais ce sont des musiciens, moi, qui me faisaient rêver, que j'écoute, qui me font voyager, et que le fait qu'ils soient si différents, c'est la méthode, c'est la méthode de l'album. J'ai l'impression que c'est ce que je fais dans ma vie en général. Ouais.
La place des femmes dans tes chansons, les femmes ont une place importante.
Déjà ma mère, c'est sûr.
Il n'y a pas qu'elle.
On a tous un lien avec notre mère.
Entre ta mère, ta tante et ta grand-mère.
Ah oui.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Je parle des trois et c'est vrai que ça les ont. Celles qui m'ont élevé. Ouais.
Oui.
Moi, je suis né dans. J'ai une sœur aussi, donc je suis le seul garçon. Je suis le seul garçon dans l'équipe là.
Donc, ça jouait pas au foot, d'accord.
Ouais, j'ai pas joué au foot. J'étais toujours exclu du monde des garçons. Voilà, mais j'étais pas non plus dans le monde des filles, donc j'étais un peu. Je me sentais un peu à part. Mais j'ai toujours eu une alliance, un peu naturelle à me dire. À adhérer en fait à la vision qu'avait ma mère sur ses collègues. Elle a eu des métiers d'hommes, elle a beaucoup évolué dans des milieux d'hommes, et je pense que elle vient des années, c'est une 68 tarde, malgré toute la révolution qu'il y a pu avoir dans les mœurs, dans plein de choses, et tant mieux d'ailleurs pour grande partie, ça a amené beaucoup de choses aussi dans la culture française. Il y a quelque chose de plus qui s'est libéré. Il y a des paroles, il y a des choses qui se sont libérées, des tabous qui se sont levés. Mais néanmoins, ça a été pas facile avec ses collègues hommes. Donc je pense que j'ai toujours entendu ça, que c'était quelqu'un qui se battait et qui assumait largement, elle ne voulait pas être cantonnée à un rôle de femme, entre guillemets, c'est-à-dire qui serait cantonnée à certains rôles sociaux. Elle n'était pas limitée à ça.
Donc toi, t'es un fils à maman, alors?
Totalement. Ah ouais, moi, c'est...
On est tous... Est-ce que les garçons sont tous un petit peu fils à maman?
Non, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai pas ce rapport-là avec ma mère, ça n'a pas été aussi facile, voilà. Ma mère a des défauts, mais une chose qu'elle a faite, c'est nous élever, s'occuper de nous, nous donner de l'amour, et bon...
On est bien tous...
C'est déjà une chance, c'est pas le cas à tout le monde. Allez, on n'a pas tous cette chance-là.
On va écouter cette chanson, Fils à maman. Hein, puis je pense à Jacqueline, qui a eu 92 ans aujourd'hui.
Une pensée pour Jacqueline.
Ah, c'est ma maman.
Ah, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte?
J'en suis un comme vous.
Allez.
Il y a les fils à papa qui ont de l'argent de poche, fils de dentiste ou d'avocat avec des gens connus dans leurs proches. Il y a les fils de rien, les minots, les gavroches qu'on élève en vaurien, à grands coups de taloche et puis Il y a les fils à maman. Ils ont tout reçu en double, savez-vous, apparemment une mère. Ça se dédouble, deux fois plus de sacrifices. Maman, c'est Mélusine, deux fois plus d'artifices pour cacher les larmes dans la cuisine. Fils à maman, fils à maman, fils à maman. Fils à maman, fils à maman, fils à maman. Il y a les fils, fils de du genre hyper précoce, qu'on verra dès demain sur les écrans de la téloche. Il y a les fils de personnes aux grands yeux de sales mioches, qui n'ont pas de smartphone, qui ne vont pas au cinoche. Et puis il y a les fils à maman, leur père a raté le coche, un père tout le temps absent, qui jamais ne décroche. Leur mère est merveilleuse, c'est des mères qui s'accrochent, c'est de l'amour sous leurs yeux qui leur fait la dépoche. Fils à maman, fils à maman, fils à maman. Fils à maman, fils à maman, fils à maman. Ma mère, une Amazone, y a rien qui la résonne. Toujours elle se résonne, elle pleure pas, ou alors seulement quand y a personne. Ma mère, elle suit son cours aussi forte que le Rhône qui coule en bas des tours de mon quartier de Petit-Gaune. Mon père m'a dit paraît de prendre soin de ma mère avant de disparaître. J'avais 5 ans, très fier, tu penses. J'étais grand frère, j'ai fait pas mal d'erreurs. Justicier, j'en bagarreur, j'étais parfois colère. Mais j'ai en vérité toujours eu le maxi plein de doudous de câlins, des rêves en quantité, des règles, de l'attention, toujours de l'affection, respect de mes émotions, de la tendresse, de l'éducation. Pour que t'aies confiance en toi, pour t'aider quand tu tombes, un amour comme celui-là, ça te sort même de la tombe. Au fond, j'ai eu de la chance d'avoir tout ça enfant. Je suis un fils à maman et c'est la plus belle des enfants. Fils à maman, 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 fils à maman.
Fils à maman. Oui, Jacqueline a eu 91 ans et pas 92. Hein, soyons bien précis quand même.
Elle hein. a bien fait de rectifier.
Voilà, ouais. Pour elle est restée à 39, elle a bien raison. donc c'est Nicolas Tarik avec son premier album Gibraltar, sorti le 24 novembre 2022. Un album sorti. Vous avez fait la fête.
Bah, on a sorti le disque le 24 novembre, on avait plein d'invités. Ouais.
Bah, oui.
C'était très très chouette. Très très belle soirée, ouais.
C'était où ?
On a fait à la MJC Barbara, donc la salle Barbara, pardon, de la MJC Mancha, dans la Lyon 3e, mm-hmm. avec, je dois dire le plateau peut-être.
Oh bah attends.
Avec Frédéric Bobin.
Que des artistes Radio B qui sont déjà venus, donc on les connaît. Oui, alors un,
Vous avez eu Camille Laili aussi ?
Non, pas encore.
Ça me dit rien.
Non, pas encore.
Ah bah vous devriez, elle est chouette aussi, c'est une copine.
D'accord.
Elle a chanté sur Nord. Il y avait qui d'autre ? Il y avait une chanteuse qui s'appelle Nazia Azouz, qui est une chanteuse orientale.
D'accord.
Et qui était, on était aussi accompagné par Mohamed M. Sahel, qui est un percussionniste à la Darbouka. C'était vraiment un moment, des moments de rencontre. Voilà. En plus, on était dans différentes langues. On était en arabe, on était en français. Et puis en allemand, puisqu'on a eu aussi une chanteuse allemande qui est venue exprès de Leipzig et qui est une amie avec qui j'avais joué à plusieurs reprises en Allemagne et puis à Lyon. Et elle est venue exprès, elle me dit « mais je vais rester dans le public ». Je lui dis « il est hors de question ». Et on a chanté « Barbara » pour le jour de la mort des 25 ans, donc les 25 ans de la mort de Barbara, puisque le 24 novembre c'était le cas. On a fait dans la salle Barbara, Göttingen, en arabe, en allemand et en français. Voilà, c'était un moment vraiment, je trouvais plein de sens. Et puis on avait 40 enfants. Ou plutôt 40 jeunes, j'arrête pas de dire enfants, mais en fait ce sont des jeunes, parce que quand ils étaient dans les collégiens.
C'est le cœur du Collège Lumière, pas Yona.
Alors oui, non, au Collège Lumière de Lyon 3e, mon chat.
Voilà. Sur scène, j'imagine que il y a au moins deux formules, la formule solo puis une formule... À combien ? 2, 3, 4 ?
Eh bien, ils étaient là le 24 novembre aussi. Oui. On avait formule à 3. Une formule à 3 avec Leïla Soldevilla, contrebassiste, qui s'est formée d'ailleurs en partie à Lyon, qui vient de Montpellier, mais qui vit à Paris aujourd'hui. Classique, musique du monde, jazz, elle est tout terrain. Elle part dans le monde entier. Elle est très ouverte à toutes les musiques des ailleurs et expérimentales aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et puis, autre personne très intéressante, on parlait des croisements. C'est pas Christophe Chrétien, donc, qui est dans l'album, qui était sur scène. Maintenant, qui m'accompagne à la batterie, c'est Pierre-Étienne Michelin. Et donc, vraiment, encore un autre univers, parce que lui, il est le batteur de Michael Jones. Il a été le batteur de Trust, de Jennifer. Il a été le directeur musical de Jennifer.
Pour bien vivre.
plutôt du côté pop, on est un peu dans les équipes Goldman, Michael Jones, etc. Mmh. Et c'est quelqu'un, quand je lui ai dit, mais c'est impressionnant ton CV, mais... voilà, c'est pas du tout ce que je fais, moi. Puis alors, Christophe Chrétien est complètement dans un autre délire, si tu veux, en batterie. Et il m'a dit la meilleure phrase qu'on pourra jamais me dire pour travailler avec moi, c'est « Moi, de toute façon, je joue pas pour faire tout le temps la même chose, je joue pour me réinventer. » Cette phrase, juste ça, c'était monstrueux. Bon, c'est génial, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a repris tout ce jeu qu'il y avait chez Christophe Chrétien dans le côté... très groove, très les ternaires, etc. Mais qui les a, qui était encore plus à l'écoute sur scène aussi du chant, tu vois, parce que quand t'es batteur de jazz, t'as un peu tendance à habiller beaucoup. Là, il y a vraiment une vraie connaissance du texte et de la chanson à texte, et il a vraiment su trouver exactement sa place. Donc en fait, c'est juste merveilleux de travailler avec Leïla et Pierrot, c'est vraiment une chance pour moi d'avoir des musiciens comme ça sur scène avec moi.
Ouais. Bien, on parle de concert, on va rapidement annoncer les concerts de la semaine avant d'écouter une dernière chanson. Chacun notre tour, on y aura droit. Allez, je commence, allez, le vendredi 17 février à la Tannerie à Bourg-en-Bresse, c'est Bertrand Belin avec Vanille en première partie. Peux-tu pas annoncer Tony, à toi, ouais. Allez.
À la Vache Rouge à Vénissieux, toujours ce vendredi 17 février, The Reckless.
Le samedi 18 février 2023, ne manquez pas Alban Ivanov, vedette, qui est déjà qui est complet apparemment, à la Halle Tony Garnier de Lyon. C'est complet.
Voilà. Au Farmer à Lyon, nos amis Mona Cazou.
À la Péniche à Lyon, Romane.
Le Moulin de Brennens accueille ce samedi Yanis Odua et Artical Bend.
On va sentir l'herbe de... enfin bref, c'est du reggae. Voilà. Le dimanche 19 février 2023, à la Cava Musique à Mâcon, Lord Betrave, c'est de l'humour.
On passe au mercredi 22 février avec une personne qu'on a reçue.
Ah bah ouais.
C'est au Craspec Musique à Lyon, c'est Caïman.
Ah bah ouais, là, je recommande. Ah ouais.
Au Théâtre à l'Ouest Lyon, Franjo.
Les Arts dans l'air à Perona accueilleront The Red Full Dogs, c'est du rock'n'roll drag show. Voilà, peut-être plus pour les adultes. Hein.
Le jeudi 23 février à Tougoutchan à Lyon, Belfour et Barkanan. Barkanan
qui Barkanan. Sont d'ailleurs qui étaient finalistes du prix Georges Moustaki l'année dernière.
Ah ouais, d'accord.
Au Transborder à Villeurbanne, ne manquez pas Dabrek, un batteur exceptionnel, qui j'ai déjà l'occasion de travailler, Release Party pour leur nouveau disque.
D'accord. Au Théâtre à l'Ouest à Lyon, toujours Franjo, on va rigoler un peu.
À l'Arcadium à Annecy, Jérémy Ferrari.
Et au Troxon à Lyon, Cassimi et Kid Victrola.
Ouais. Et on finira à la médiathèque Saint-Genis-Pouilly avec nos amis Romain Lateltin et puis Théophile Hardy, alias Lou Papa Poule. Et nous, on va finir, on va écouter un dernier morceau de Nicolas Tarik, extrait de son album Gibraltar. Tonio,
c'est un morceau dont on a parlé tout à l'heure, en as parlé tout à l'heure, hein, c'est le morceau Libre.
Ben oui.
Voilà. Donc Libre, un nouvel extrait de Gibraltar par Nicolas Tarik.
Moi je voulais être libre comme le vent, danser sur les rives des grands sentiments, cueillir les fleurs de l'âge, éviter les tourments, éviter le surmenage, rester amant, ne pas lire les secrets que son jardin recèle, ne pas voir son côté un peu irrationnel. Elle, je voulais les embruns sans quitter la terre ferme, mais j'embarque en se touche nos épidermes. Finalement je suis libre de la vouloir passionnément, finalement je suis libre vraiment. Finalement je suis libre de la vouloir passionnément, finalement je suis libre. Je ne l'ai pas cherché, ou bien pas consciemment. Dans mes paumes écorchées, une pépite, un diamant. Elle s'en va, se rhabille, elle le fait calmement. Des signes s'épanouissent sur ses flancs. Ses yeux sont le mystère, le disque incandescent. Moi je parle pour taire ce qu'au fond je ressens. Elle me demande alors, demain t'es libre quand? Et mon pouls bat plus fort qu'auparavant. Oui, je suis libre, on dit 20h. Finalement je suis libre de la vouloir passionnément. Finalement je suis libre, vraiment. Finalement je suis libre de la vouloir passionnément. Finalement je suis libre, vraiment. Je croque son sourire, qu'on dirait permanent. Pourra-t-elle guérir de ce mal rémanent? Que je crois, je devine, elle se confie rarement. Elle est du genre à vivre à pleines dents. Nous sommes ébréchés et sans hasard, vraiment. Si on s'est rapproché, je ne crois pas les voyants. Mais je sais qu'éméchés, quand ensemble on s'étend. Je dois souvent lécher ces blessures doucement. Finalement, je suis libre de la vouloir passionnément. Finalement, je suis libre vraiment. Finalement, je suis libre de la vouloir passionnément. Finalement, je suis libre vraiment. Thank you.
Voilà, c'était Libre par Nicolas Tarik, un extrait de son album, premier album Gibraltar, publié en novembre dernier.
Voilà, il va être l'heure de se quitter. Nicolas Tarik, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B au Thermis des Prétentieux.
Eh ben merci Michel pour l'invitation, merci Tonio.
Merci à toi.
Rappelons la sortie le 24 novembre 2022 de ton premier album Gibraltar. On peut se procurer où, quand et comment, sans oublier les EP 5 titres, Amour d'hiver et les insomnies.
L'album Gibraltar, dans tous les cas, on le retrouve sur www.nicolatarik.com. C'est,
tout attaché.
Tout attaché. On peut le retrouver sur les plateformes aussi.
Ouais.
Spotify, Deezer, iTunes, etc. Les clips sont sur YouTube, sur mon channel YouTube, ma chaîne YouTube.
Et toute la pub qu'on vient de faire pour les GAFA, t'as vu ?
Malheureusement. Mais ce sont des services publics qu'il faudrait reconquérir sous la forme de services publics.
Tout à fait. Ouais. Comme ça, on pourrait faire de la pub gratuitement. Exactement. Bon, les deux premiers EP, t'en as plus ?
J'en ai. Je peux encore, si on m'écrit un mail sur contact@nicolatarik.com ou sur mon site internet, je peux vous fournir le deuxième EP,
d'accord.
Les Insomnies de Nicolas Tarik.
Bien. On te retrouve où sur scène dans la région ? Proche.
Pour l'instant, rien. Par ici. Mais ça reviendra.
Côté de Lyon, par exemple
Ça sera à Paris. Ouais, non, c'est pas à Lyon.
Ouais. Ah ouais.
Oui, pour le prix, Georges Moustaki.
Georges Moustaki qui pourrait avoir lieu, qui est repoussé donc au 12 avril. Qui pourrait être repoussé au 12 avril, c'est pas confirmé.
D'accord. Eh bien, Tonio, bonsoir.
Bonsoir, Michel.
La semaine prochaine, nous continuerons notre escapade à travers les salles de concert de la région proche. Elles regorgent de talents que nous vous ferons un plaisir de présenter. Sur ce, comme tu le dis si bien, Tonio, on déborde. C'est pour ça. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0
de Radio B.
Nicolas.
Ah, merci encore.
Bonne continuation, bon concert et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt, ouais. Salut.
Salut.